groupe radio du GEM, Citoyen, est très heureux de vous présenter sa série documentaire « Pendant que les psychoses ».
C'est l'heure des médicaments.
Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit.
On reconnaît une société à la façon dont on traite les fous.
Pendant que les psychoses...
Pendant que les psychoses...
Il n'y a pas la folie d'un côté, puis l'intelligence de l'autre. Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. C'est une forme de folie plus grave.
Une série du GEM, le nouveau cap. Groupe d'entraide mutuelle.
À tous et bienvenue à cette soirée avec le GEM, le nouveau cap. Nous sommes Laure et Sarah de Jet FM, Laure qui est juste derrière moi. Pour certains, certaines, vous ne pouvez pas la voir, mais la voilà. Donc Jet FM, c'est une radio associative locale qui est amie du GEM depuis 10 ans maintenant, mais ça, on en reparlera plus tard. Nous allons partager ensemble un moment de radio pour découvrir en avant-première le podcast « Pendant que les psychoses ». L'équipe de cette série documentaire a profité de la semaine de la santé mentale pour parler de la sortie de ce projet.
Ce plateau radio va être l'occasion de découvrir les coulisses de cette belle aventure créative et humaine. Et on est honorés de présenter ce projet. Nous accueillons sur le plateau Emmanuel, Pascal, Aline, Julie, Laurent.
Bonjour.
Et Julie. Qui a accompagné le projet. Et puis on dit bonjour à Mélanie qui est dans le public, qui a fait partie de l'équipe également. On passe aussi le bonjour à Malo et Olivier qui ont travaillé sur la musique de la série.
Voilà, et avant d'ouvrir nos écoutilles, je vais passer la parole à Pascal pour que tu puisses nous parler du GEM en quelques mots.
Alors le GEM, c'est une création d'une loi de 2005 faite sous le gouvernement de Jacques Chirac qui a permis à des gens ayant eu des maladies psychiques de se retrouver pour rompre la solitude et l'isolement. Et ensemble, ils font des activités. Par exemple, actuellement, il y a l'atelier radio. D'autres ont fait du théâtre. D'autres ont fait des ateliers d'écriture. D'autres ont fait du dessin. C'est souvent animé par des gens du GEM, mais quelquefois par des gens extérieurs, comme pour le théâtre, par exemple, ou nous avec la radio. Ça permet à des gens de se retrouver. Autrement, s'il n'y a pas d'activité, ça s'appelle la cafétéria. Ils se réunissent autour d'un café, une boisson. Et donc, nous avons... travailler pendant un an sur ce projet de podcast.
Laurent, tu voulais peut-être dire un mot aussi sur le GEM, parce qu'il paraît que tu es là depuis sa création.
Non, je suis là depuis la création de l'émission de radio.
Ah, pardon.
En fait. C'est-à-dire que, c'est pas grave. Ah, c'est-à-dire qu'avant, c'était une émission de radio qui passait tous les 2-3 mois, qui s'appelait Citoyen, et où on parlait de notre quotidien. Personnellement, j'y tenais une chronique musicale, en fait. En fait, j'ai fait à peu près tout. J'ai fait des interviews, j'ai fait chroniques musicales. J'ai repris des morceaux à la guitare aussi, en rapport avec le thème des émissions. Et puis, on était une bande de joyeux lurons qui s'amusaient bien, quoi.
Et donc, Citoyen, c'est 10 ans d'existence quand même, des ateliers qui ont été animés par Julie Ozou, ici présente, qui n'a jamais lâché son lien au GEM, même après avoir quitté Jet. Emmanuel, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à Citoyen ?
C'est une émission qui date du 23 septembre 2013, donc ça fait 10 ans. Et donc, ça a commencé, comme disait Laurent, avec Gérard, qui était directeur, enfin président du GEM. C'est lui qui a inauguré cette émission. Et puis, il y avait plein de choses à dire parce qu'on interviewait des gens. Parce que, par exemple, quand on faisait une émission sur... on a fait une émission sur le surnaturel. Et on avait interviewé quelqu'un qui fait de la zététique. C'était un expert en zététique. C'est la science du doute. Donc, voilà, c'est ça. C'est, en fait, à chaque fois, on essayait de faire une émission complète. Voilà.
Et vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast sur le site du sonolab.fr.
Par exemple, on a fait comme thème le rire. J'ai interviewé personnellement la responsable du club du rire de Nantes, du regard du rire, si vous connaissez. On a fait une émission sur son naturel. Sur la sécurité, on a interrogé M. Bolo dans son bureau à la mairie de Nantes. On a aussi fait une émission sur la sécurité. Vous voyez, donc les thèmes sont assez variés, on les choisit et ça met à peu près 3 ou 4 mois avant qu'on puisse faire l'émission. On l'enregistre au sein de la radio JTFM.
Et là, ce soir, il y a Monsieur Macron qui voulait venir, mais on n'a pas voulu.
On l'a refusé.
Je vous propose qu'on écoute un extrait, un petit medley des émissions de Psy-Toyen et on se retrouve après.
Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle émission Psy-Toyen sur le paranormal. Vous êtes bien sur JetFM 91.2. C'est Clément, je vais animer cette émission.
On bouge en meute pour aller au match à la Beaujoire et on se jette sur la bouffe à l'heure du déjeuner. Tout compte fait, on diffère peu de nos amis les bêtes. Mais voyons, nous sommes des êtres de culture, rappelleront les gens raisonnables.
Il y avait une bête qu'on décrochait, une autre qu'on glissait sur le rail, une troisième, un bœuf abattu, était couché, les jambes blanches en l'air et le boucher enlevait sa peau. Par la porte opposée ou celle où je me trouvais, on faisait passer en même temps un grand bœuf, rouge et gras. Deux hommes le traînaient. Il avait à peine franchi la porte qu'un des bouchers armé d'une hache à long manche le frappa au-dessus du cou.
Enfin, le problème, c'est est-ce que vraiment, en multipliant les caméras, on baisse le niveau de criminalité et délinquance? Ça, on ne sait pas du tout.
Bah, oui.
Si on prend la ville de Nice, où il y a une des villes en France où il n'y a plus de caméras et de reconnaissance faciale, j'ai jamais entendu dire que la criminalité avait baissé.
Je me dis en fait que le système dans lequel on est, en fait, qui met en avant l'utilité des caméras, en réalité, il y a un chiffre, je l'ai devant les yeux, c'est en fait leur rôle dans l'élucidation des délits concerne moins de 3% des enquêtes. Ce qui fait que c'est un peu un mirage, en fait, croire que les caméras vont tout résoudre, c'est un peu un mirage.
Vous êtes sur JetFM au 91.2, ne l'oubliez pas. Merci à Pascal, Emmanuel et Cyril. Big up à Gaëtan et Clément qui n'ont pas pu être présents. Merci à Julie qui est aux manettes techniques de Psy-Toyen depuis longtemps. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et on finit par une petite chanson que j'ai écrite sur le thème de l'émission qui s'appelle Grand Frère. Salut et à l'année prochaine à tous. Salut. Ciao.
Bonne fête.
Salut. Au grand frère, grand fabricant, grand vendeur, laisse-moi partir, laisse-moi te fuir. Ô grand frère, grand traqueur, tes yeux affamés nous entourent, prêts à bondir sur les données privées comme un vautour.
C'était un extrait de Psy-Toyen et nous sommes toujours en direct du GEM Le Nouveau Cap pour le lancement de la série documentaire Pendant que les psychoses. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec Julie Ozou et Emmanuel qui ont pensé ce projet. Donc on a une question pour vous. Qu'est-ce qui a motivé cette série et comment vous avez fait pour réunir cette équipe?
C'est une discussion par SMS au départ. C'est une discussion par SMS au départ. Et donc c'est Julie. Enfin, elle a rebondi dans la conversation. Quoi. Elle s'est dit, ça lui a fait penser à tout ce qui existe autour des podcasts et à la mode. Et donc c'est comme ça que ça s'est né, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est aussi suite à 8 ans d'existence d'un atelier qui commence à être rodé où les personnes, vous avez vu la diversité un peu de ce qui peut se faire, c'est-à-dire qu'on va de l'interview, mais on peut faire de la fiction, on peut faire des sketchs, des interviews, il y a plein de choses. Le matériel est connu, de se dire on va aller un petit peu plus loin et puis aussi de revenir à l'essence qui était de parler des troubles psychiques, puisqu'en fait, là, dans les émissions, on ne parlait plus du tout ça, même si on y revenait par des biais, mais de revenir à ça et d'aller dans un projet un peu plus ambitieux,
à peu près,
de un an, qui était finalement un très gros projet, et de se dire, on va aller un peu plus loin que ce qu'on faisait un peu par petites touches, là. Et voilà.
Et ça, on a trouvé pas mal de personnes qui étaient prêtes à parler de handicap. C'est pas forcément facile, parce que c'est quelque chose qu'on cache souvent, quand même, dans les familles, tout ça, on n'ose pas trop en parler. Et là, donc, il y a beaucoup de gens. Il y a apparemment c'est 10, à peu près 11 femmes, 10 hommes, je crois. Et donc, ce qui fait que c'est une parité, comme on disait. Et ce qui fait que quand les gens ont un problème, et ben là, on a permis de discuter autour de thématiques qui concernaient les gens. Voilà.
On redéterra de toute façon plus oui, après au fur et à mesure, mais voilà, c'est ça. Bah, en fait, du coup, l'équipe pour la question, c'était, on en reviendra peut-être après, mais en gros, bah, y a quand même la moitié, c'est les gens de Psy-Toyens qui sont restés de l'émission. Et puis après, des gens qui sont arrivés après, mais ça, on le dévoilera après de comment ils sont arrivés peut-être dans le
oui,
déroulé.
Oui, je pense qu'on va arriver vers ça. Donc, c'est bien, tu parles de chiffre 10. Le 11, c'est aussi 10 épisodes que vous avez réalisés. Ce que j'ai compris, c'est que tous ensemble dans l'équipe, vous avez choisi des thèmes. Et là, je m'adresse à tout le groupe pour parler justement de ces thèmes. Comment vous les avez choisis? Est-ce que vous avez dû renoncer à certains en discutant ensemble? Et est-ce qu'il y en a qui sont apparus en cours de route? Comment vous avez structuré un peu ces épisodes?
C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a choisi des thèmes et on s'est rendu compte qu'il y avait une chronologie dans les thèmes. Par exemple, vous verrez le premier thème, c'est le basculement de la maladie. Et le dernier thème, c'est le rétablissement. Donc, on passe pas du basculement au rétablissement tout de suite. Par exemple, dans les thèmes intermédiaires, il y a le traitement, la famille, le travail. Vous voyez, il y a 10 thèmes, mais sur une chronologie de positive, quoi. C'est à peu près la vie d'une personne psychique qui racontait, quoi. Et c'est fait uniquement par des gens qui ont des maladies psychiques, qui ont témoigné. Au départ, on a lancé des appels à témoignages. On a été voir des gens à Cholet, des gens sont venus de Savenay, d'autres sont venus de Sorinière, d'autres sont venus de Rosay. Et en fin de compte, on ne savait pas du tout au départ qui allait témoigner, vous voyez. Et on a même été surpris au départ. Je m'attendais à un moment donné, j'avais 3-4 personnes au téléphone, me disaient, est-ce qu'on aura assez de personnes pour témoigner? En fin de compte, on a quand même 21 témoignages. Même à la fin, on aurait pu en refuser, parce que si on avait fait relancer ceci, on aurait encore eu beaucoup plus de témoignages. Vous pourrez voir, là. Donc ce soir, vous aurez comme émission le premier thème, le basculement, où en fin de compte, c'est juste Emmanuel, Julie... Et moi qui sommes interviewés, au départ, on s'est testé nous-mêmes pour voir comment on pouvait faire les interviews. Et dernier épisode, c'est le rétablissement où tous les gens qui ont témoigné disent une phrase positive. Parce qu'on a voulu finir sur un élément positif.
Et aussi, en fait, dans les thèmes pas listés, en fait, donc il y a une dizaine de thèmes là, il y a 3 thèmes qui sont apparus, qui sont celui des addictions, qui était un peu commun à beaucoup, beaucoup de témoignages et d'histoires. Et qui apparaissent comme ça au cours des 10 épisodes. Il y a aussi le thème par rapport au travail du burn-out et aussi le thème du suicide, qui sont donc des thèmes qui sont apparus un petit peu comme ça, qu'on n'a pas listés au départ.
En fin de compte, ça n'a rien d'exhaustif. On s'est rendu compte que, par exemple, beaucoup de gens tombaient dans la maladie du fait du cannabis ou d'autres drogues. Ils devenaient malades à cause de ça. Et beaucoup de gens, par exemple, parlaient de leur suicide, c'est arrivé, ou leur très grande détresse. Et on a vu aussi des gens qui parlaient de leurs difficultés au travail. Mais ça, on ne les a pas traités, vous voyez. On aurait pu faire 13 thèmes. Donc, ouais. Peut-être une nouvelle série, mais assez courte.
C'est-à-dire, c'est ça, tu prépares une saison 2. Effectivement, c'est très, très bien de mettre le public en haleine avant même d'écouter les premiers épisodes. Julie, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, non, c'est juste qu'en fait, je me suis un peu embrouillée. C'est que comme je ne vous ai pas représenté qui est arrivé après, enfin, qui ne faisait pas partie de Psy-Toyens. Donc, Julie, toi, tu nous as rejoint en septembre, mais tu ne faisais pas partie de Psy-Toyens. Donc, comment tu es arrivée là?
En fait, j'ai reçu un mail, du coup, sur ma boîte mail, du coordinateur de mon association. Du coup, je suis partie de Dynamics, une autre association d'inclusion sociale par le sport. Et en fait, on m'a sollicité pour témoigner. Et en fait, je suis venue au GEM. Du coup, c'était la première fois que je venais. Et on m'a super bien accueillie. Et on m'a proposé de faire partie carrément du projet entier. Donc j'ai accepté et le projet me plaisait bien, donc j'ai accepté, voilà. Mais j'ai adhéré au GEM.
Est-ce que ta cotisation est à jour?
Et après est arrivée Aline et Mélanie, au mois de mai. Elles ont pris ça en cours. Mais elles nous ont beaucoup aidés parce que nous commençons à avoir marre depuis le mois de septembre.
Bon, on va lui laisser la parole d'ailleurs.
Oui, moi je suis arrivée avec une amie ici et on découvrait tout juste le GEM en fait, c'était vers le mois de mai. Et donc il y avait ce projet de podcast, radio, enfin de radio, de séries documentaires qui, donc on a rejoint un petit peu voilà, ces derniers mois.
Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on écoute tout de suite un premier épisode. Donc c'est l'épisode 1 qui s'appelle « Je tombe dans le vide » et Aline, je te propose de dire quelques mots avant l'écoute.
Alors oui, c'est le premier épisode et donc il va parler un petit peu du basculement et en fait c'est aussi pour dire que en travaillant ensemble on se retrouvait assez régulièrement à Jet FM et on a aussi eu pas mal d'idées comme ça qui ont émergé et entre autres on a fait pas mal d'ateliers d'écriture et un en particulier sur pour essayer de trouver un titre aux épisodes. Donc là c'est le basculement mais chaque épisode c'est un thème un peu précis comme ça et donc on essaie de trouver des idées pour essayer de poétiser un peu tous ces termes un peu parfois un peu difficiles. Voilà. Et je vais en profiter pour dire aussi que les tout premiers épisodes, en fait, c'était d'abord les témoignages de personnes qui étaient dans cette équipe-là, en fait. Et c'était aussi pour se tester. Et donc, les premiers témoignages, les premières interviews, c'était d'abord entre personnes du projet.
Je ressentais comme si mon esprit se dissociait en deux, quoi. Se déchirait.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé.
J'ai pas compris ce qui m'arrivait en fait. Quand j'étais à l'école, j'étais une gamine très, très calme, très posée. J'étais la meilleure de ma classe, j'avais des bons résultats scolaires. Enfin voilà, j'étais une gamine sans histoire.
Mais à l'époque, je me rendais pas compte de ce que j'avais. Hein. Je pensais que ça allait être passager. Hein.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre à l'instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
Hier, toi, moi, on a basculé. C'était tout noir et très bruyant. Des voix persécutantes aux angoisses incessantes. Des volutes de fumée aux sirènes d'ambulance. Loin des proches. Ou des proches qui s'approchent trop. Des chocs, des émotions, feux d'artifice. Qui déclenchent, enclenchent, qui nous dévalanchent. L'agitation extrême. Puis, plus rien. Le lit, les draps comme un linceul, les hontes, les peurs, les solitudes, la réalité déformée, la norme dissoute. Comme si, sans s'en rendre compte, on hurlait pour une brèche, une marge, un endroit protecteur. Seulement, presque personne ne nous entend. À moins que toi, là, tu nous écoutes ?
C'est l'heure des médicaments. Médicaments.
Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit.
On reconnaît une société à la façon dont on traite les fous.
Pendant que les psychoses...
Pendant que les psychoses...
Je tombe dans le vide.
Il n'y a pas la folie d'un côté, puis l'intelligence de l'autre. Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. C'est une forme de folie plus grave.
Une série du GEM, le nouveau cap. Groupe d'entraide mutuelle.
Épisode 1.
Hier, toi, moi, on a basculé. Et aujourd'hui, être là, réparé total ou à moitié. La joie tout près, avec cette envie ensemble de dire, de nous dire. Ça me fait penser. Récemment, j'ai entendu « le soin est collectif ». Et ça faisait chaud dans les cœurs, dans les corps d'entendre ça. Je ne veux pas me développer personnellement. Je veux me soigner collectivement. Alors, si on essayait...
Alors, je m'appelle Emmanuel, je suis né à Nantes, je suis né en 78 et je suis tombé malade vers 21 ans, d'une dépression au départ.
Je m'appelle Julie, j'ai 30 ans et je suis tombée malade assez jeune, je suis tombée malade à 15 ans du coup lors d'un séjour scolaire en Espagne.
J'ai 65 ans bientôt, je m'appelle Pascal. J'ai passé le concours d'inspecteur externe des PTT. J'étais reçu, les cours commençaient au mois de septembre à Toulouse. Pour valider l'école là-bas, il fallait faire des stages comme je les faisais à la poste de Saint-Nazaire. Ce qui faisait que je me levais vers 4h30 du matin. Donc j'étais assez fatigué. Après, je me suis retrouvé donc, à Argenteuil. J'avais une amie pendant 4 ans qui m'a laissé tomber. Quand je suis arrivé donc, à Argenteuil, j'étais tout seul. J'ai quitté ma famille. Après, j'ai donc beaucoup d'événements sont intervenus, des chocs psychologiques.
J'étais à la fac et je me souviens, je fumais beaucoup de shit. Au lieu d'aller en cours, j'étais stressé, la boule au ventre. Je ne bougeais pas de ma voiture, je ne pouvais pas aller en cours ni rien. J'étais comme figé, quoi. Et ça a commencé comme ça. Enfin, si je n'avais pas fumé après la première dépression, je pense que j'en serais sorti. Hein. Mais après, j'ai continué. Donc c'était ça, ça m'a foutu dedans, quoi.
En fait, j'étais loin de ma famille, loin de mes repères. Et du coup, ça a été vraiment la première crise que j'ai faite. J'ai commencé à entendre des voix. C'était des voix qui me disaient que j'étais quelqu'un de méchant, néfaste, que j'étais pas... C'était des voix qui me parasitaient en fait, au quotidien, tout le temps, et qui n'étaient pas réelles, que je n'étais pas dans la réalité. J'ai commencé à me sentir persécutée. C'était très difficile. Je me sentais suivie dans la rue. Et aussi, je me rappelle que je parlais avec ma camarade de classe et qu'en fait, je disais que les autres, ils me suivaient, que même mes camarades de classe, je me sentais persécutée par eux aussi. Et du coup, c'est très compliqué à gérer, pour eux aussi, je pense. C'est pour ça que la professeure a commencé à penser que j'étais vraiment mal. Et du coup, j'ai dû faire quand même tous ces jours dans cet état-là. Et dès que je suis rentrée en France, j'ai été hospitalisée directement en psychiatrie.
On avait décidé d'aller en discothèque. Et moi, en partant, je me suis trompé parking. Et je suis tombé sur une bande de clochards qui m'ont agressé. Peu de temps après, donc c'était au mois d'octobre, j'avais un ami d'enfance à Saint-Révin, là, qui était mes voisins. Là. J'ai appris qu'il s'était tué en allant à Rouen. J'avais sympathisé avec un petit voisin dans mon immeuble. Il s'est tué sur le périphérique. Tout ça s'est produit en 1983.
Je trouvais que c'était des gens qui étaient marginaux et que, quelque part, ce genre de marginalité, ça me plaisait, quoi. Comme si, en fait, je voulais expérimenter quelque chose de radical par rapport à l'esprit et tout ça, quoi. C'était une sorte d'expérience. Je voulais vivre une expérience intense. Et donc, je suis allé à Amsterdam. Là-bas, avec un copain, on a fumé, quoi. Et le premier joint que j'ai pris, en fait, j'ai eu des yeux. Mes yeux se sont allumés, en fait. J'ai eu des pensées qui sont passées à toute vitesse dans ma tête. Et après, je ne me souviens plus rien. Tout est inconscient, quoi. Pour moi, c'est le déclencheur. Il y avait l'hôpital qui ne croyait pas à ça. Il disait non, pas le shit, le LSD, mais pas le shit. Et de plus en plus, ça se dit beaucoup dans les milieux des médecins que le shit est le détonateur. C'est un déclencheur parce que le shit change la composition des pensées. Quand on pense de façon ordinaire, sans drogue, on a des pensées plus ou moins liées à une certaine réalité. Les drogues en général, enfin c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'ai vécu. En tout cas, c'était comme ça, j'avais des pensées en mots, MOT quoi, qui défilaient dans ma tête par rapport à la réalité justement. Ça passait à toute vitesse. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ces pensées-là ont commencé à être un peu délirantes. Et je me souviens, je parlais à mes copains et puis mes copains ils me regardaient, qu'est-ce qu'ils racontent quoi. Je savais qu'il fallait que je change d'état mental, en même temps j'y arrivais pas, alors c'était très compliqué quoi.
J'ai vécu un choc émotionnel quand j'étais plus jeune, du coup j'avais 12 ans et je pense que c'est dû à ça que ma maladie est liée, en fait ça a tout déclenché et c'est de là que tout est parti en fait. Je m'inquiétais beaucoup pour ma mère aussi parce qu'elle vivait seule et que mon père était quelqu'un de très, enfin potentiellement dangereux pour elle. Je pense que je m'inquiétais énormément pour ma maman et du coup ben, c'est parti de là aussi. Je pense que c'est tout cet engrenage là qui a fait que je me suis retrouvée prise en pleine bouffée délirante en Espagne à 15 ans et j'étais démunie.
Oh bah, la dépression, bah, j'ai pleuré. Je pouvais, bah, déjà à cette époque-là, j'avais des troubles de la pensée. Je ne pouvais plus penser, j'étais bloqué, quoi, je me souviens. Le médecin, il a dit à ma mère que j'avais eu une dépression très grave. Donc voilà. Mais le truc, c'est que. Je sais pas, tout est chamboulé. C'est plus pareil qu'avant, quoi. On a l'impression que ce qu'on faisait avant, c'était nul. Et puis que Enfin, moi, c'était comme ça, quoi. Et puis même, par exemple, il y avait des copains qui parlaient ensemble, et moi, je me suis exclu moi-même, quoi. En fait, comme si rien ne m'intéressait, quoi. Ça fait un peu ça. C'était un peu bateau de dire rien ne m'intéressait en dépression, parce qu'il y avait l'angoisse en même temps, donc tout s'est chamboulé, quoi.
Peu de temps avant d'être hospitalisé, j'avais été plus ou moins paranoïaque. Parce que comme on m'en voulait au bureau, je me sentais plus ou moins persécuté par... Bah, elle me disait, mais c'est incroyable, en peu de temps, autant d'événements, parce que même pas en 6 mois, on va me licencier, ma copine me quitte, mon copain est mort. Et j'oublie sans doute d'autres choses psychologiques, parce que je pense, si j'en ai eu d'autres, peu de temps avant, au mois d'août, je me rappelle très bien, j'ai fait une bouffée délirante chez mes parents. Ils ont donc fait venir un médecin généraliste qui m'a conseillé de voir un psychiatre.
Une bouffée délirante, en fait, c'est quand tu entends des voix qui ne sont pas réelles, qui te persécutent. Et même quand je regardais la télévision, je regardais les informations, par exemple, et je me rappelle que j'avais l'impression qu'on parlait de moi alors qu'on ne parlait pas du tout de moi. En fait, je transformais les voix des gens, tout ça. Ouais.
Une bouffée délirante, c'est-à-dire qu'on est très angoissé, on parle assez vite, on exprime des choses soudaines, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se contrôle plus. On ne s'entend plus mentalement, quoi.
J'entendais les voix distordues, les gens distordus et tout ça, comme si mes perceptions étaient déformées.
Des moments, ça redescendait un petit peu, mais c'était très léger, en fait. Quand j'essayais de dormir la nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'étais en boucle sur ma mère. Je n'arrivais pas à le joindre par téléphone, parce qu'à l'époque, les téléphones, ça passait pas trop bien en Espagne. Tout ça, enfin, c'était compliqué. J'étais en boucle sur ça et je n'arrivais pas à la joindre. Et plus je n'arrivais pas à la joindre, même plus ça m'angoissait, en fait. Et plus c'était un cercle vicieux. J'ai pas dormi du tout pendant ces jours, j'avais manqué de sommeil et je pense que c'est que là tout est parti aussi en fait.
Je pense que le fait d'être fatigué, ça favorise beaucoup les troubles psychologiques. Hein. Le physique aide beaucoup au moral. Hein. Si on est en forme, on est moins susceptible à des problèmes psychologiques, ça c'est évident de toute façon, on l'a toujours constaté. Hein. C'est pour ça que chaque fois que vous voyez un psychiatre, il vous demande si vous avez bien dormi. Hein. Donc c'est essentiel pour lui de bien dormir pour être en forme. Hein. Donc ça m'a déstabilisé, tous ces événements. Et après, peu de temps après, j'ai donc été chez une amie de Saint-Brévin-les-Pins un week-end, et puis à nouveau, j'étais énervé. J'ai fait à nouveau une autre bouffée délirante. Elle a appelé les pompiers, et donc je me suis retrouvé à l'hôpital à Argenteuil.
Le psychiatre que je voyais à l'époque, bon, il m'a dit, faut que vous alliez à l'hôpital. J'avais dit à ma mère, je ne peux rien faire pour lui tout seul. Mais entre-temps, j'ai pris ma boîte de Lexomil. Et donc, je suis allé aux urgences. Et donc, là, après, donc, on m'a amené à l'hôpital, psychiatrique à Saint-Jacques. Après, je suis surtout resté dans ma chambre à l'hôpital. Je ne sais plus du tout ce qui s'est passé. C'était en 99, alors, ça date, quoi.
Quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a tout de suite donné un traitement et on m'a assommée carrément. Hein. Je dormais toute la journée, j'étais très fatiguée. J'ai eu la première consultation avec le psychiatre. Il a dit que je resterais toute ma vie en hôpital psychiatrique, tout ça. Ça a été aussi. Ça m'a fait aussi réagir un peu. Et je me suis dit, mais non, je vais lui prouver justement que je ne vais pas rester toute ma vie en hôpital psychiatrique. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui m'a fait. Et je me rappelle qu'il y avait d'autres enfants avec moi à l'hôpital. Et que du coup, ça m'aidait aussi un peu à ressortir de ma bulle. Parce que vu qu'on est déconnecté de la réalité, quand c'est comme ça, c'est pas toujours facile. Le contact avec les autres m'a permis aussi de m'en sortir, je pense. En pédopsychiatrie, il y avait des jeunes, ils avaient 5-6 ans. Hein. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a aidé à aller mieux aussi, parce que je me suis dit, mais ça arrive aussi aux autres, et du coup, c'est pas qu'à moi que ça arrive.
Schizophrénie, en fait, c'est un peu compliqué, parce que, pour dire les choses rapidement, j'ai des accès de schizophrénie, on va dire. Dans mes yeux, en fait, on voit que je sens comme si mon esprit se dissociait en deux, quoi. Des fois, on a des sortes de crises d'angoisse où les pensées et soi sont dissociées. C'est comme si, en fait, on pensait, mais qu'en fait, en même temps, on pensait, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est soi? Parce qu'en fait, je pense donc je suis. J'ai lu ça récemment, c'est une sorte de déréalisation. Ce qui fait que, quelque part, on est dans un monde où on n'est pas vraiment dans le monde, quoi. C'est comme si on était complètement en fait chamboulé, quoi. Je me demande des fois si, je sais pas, parce que des fois j'entends des trucs et je me demande si c'est la réalité. Voilà, c'est ça. Les voix, c'est autre chose, parce que par exemple, une fois j'étais dans un restaurant, j'étais avec un copain, je sentais autour de moi une sorte d'agressivité, comme si on entendait des gens faire des borborygmes et tout ça, quoi. J'étais le nez dans mon assiette quasiment, je n'osais plus bouger, quoi. Je n'osais rien faire, que de peur que quelque part, tout autour de moi, vienne un peu faire du mal et tout ça, là. Et donc, ça, c'est un exemple de schizophrénie. Ouais.
Une phase basse, on n'a plus d'énergie, on ne peut plus rien faire. On n'a même plus la volonté de se lever, on reste au lit. On n'a plus envie de lire, on n'a plus envie de... On ne fait plus rien, quoi. Faut essayer de retrouver le goût de revivre, mais ce n'est pas évident parce que ça se passe pas en 15 jours, je vous l'assure. Hein. C'est très long. Hein. Ils ont dit, vous êtes fatigué, crise dépressive. À l'époque, je n'ai jamais été diagnostiqué bipolaire. Hein. D'ailleurs, à l'époque, on ne parlait pas de bipolaire, on parlait de crise... des crises dépressives, crises maniaques, pas maniaque, on disait maniaco-dépressif. Après, quelques années après, on m'a dit cyclothymique, ça fait à la limite que 15 ou 20 ans qu'on me dit bipolaire. Parce qu'à un moment, on ne pouvait pas ces termes-là. Hein.
Il y a des soirées avec les copains où on m'a insulté. Les gens sont assez violents, en fait, quand ils ne comprennent pas, quoi. Soit ils me croyaient toujours normal, et puis, en fin de compte, ils voulaient me voir comme quelqu'un de comme avant, tout ça, pour ne pas perdre le lien avec moi. Mais non, c'est plus trop comme ça. Mais à cette époque-là, je ne pouvais pas voir les gens. C'était vraiment trop dur de voir les gens. C'est pour ça que j'étais tout le temps chez moi, avec mon chien que j'allais promener tous les jours, et puis c'est tout, quoi.
Bah, au départ, ils savaient que j'avais été à l'hôpital. Ils disaient carrément, il est fou, voyez, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on disait, hein. Il disait, il est fou, qu'est-ce qui se passe, complètement, il est débile, tout ça. J'ai entendu ça dans le bureau de poste. Hein. Ça rassure pas qu'on entend ça, d'ailleurs.
Ils étaient très jugeants aussi, quand on est adolescent, on a un peu, enfin, c'est l'âge bête, entre guillemets. Quand ils ont 15 ans et ils n'ont jamais été confrontés à la maladie avant, je pense. Et du coup, sur le moment, ils ont été très jugeants, très méchants. Et justement, déjà, moi, ça ne m'aidait pas parce que j'étais déjà dans mon mal-être. Et en plus, déjà, ils me jugeaient et ils étaient là vraiment. Heureusement qu'il y a les professeurs qui étaient là pour calmer les gens, entre guillemets, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait eux non plus. Et ben, moi non plus, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait en même temps, mais personne ne comprenait. Je crois qu'on était tous dans l'incompréhension totale, en fait. C'était tellement inattendu, en fait. Le fait que je prenais un traitement aussi, parce qu'ils le voyaient bien, j'étais en internat, donc je prenais un traitement tous les soirs. Du coup, ils se posaient des questions aussi, je pense, et moi, je leur disais pas forcément des réponses peut-être qu'ils avaient envie d'entendre ou quelque chose comme ça. Et du coup, ils étaient assez jugeants, je trouvais, sur la maladie, quoi. J'avais quand même une amie qui a toujours été là pour moi. Et du coup, ça me faisait du bien aussi d'être avec elle, de passer du temps ensemble. On discutait beaucoup et c'est vrai que ça m'a aidé aussi dans ma scolarité à aller quand même jusqu'en terminale. Mais c'est vrai que ouais, le bac, j'ai pas pu passer le cap, quoi. J'avais des traitements qui étaient beaucoup trop forts, surdosés en fait. Et du coup, j'avais été très sensible à la fatigue, au stress. Et après, j'ai essayé de passer mon bac et je suis retournée à l'hôpital directement en fait.
C'est sûr, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que j'aurais aimé avoir des enfants, j'en ai pas eu. Je crois que pour moi, c'est vraiment j'aurais bien aimé élever des enfants. Dans tous les sens du terme, quoi.
L'acceptation de la maladie, c'est très dur. Enfin, c'est l'étape la plus dure, je trouve, du parcours que j'ai dû faire. Maintenant, j'en ai plus du tout honte de ma maladie, mais à l'époque, j'en avais vraiment honte, en fait. Si j'en parlais pas avec mes camarades de classe, c'est simplement parce que j'en avais très honte. Au début, même dans ma famille, ils disaient pas que j'étais schizophrène ou que je trouvais des troubles psychiques. Enfin, ils disaient jamais ça. Maintenant, je me dis qu'il n'y a plus aucune honte à avoir et que c'est là et que voilà, maintenant je vis avec et je vis très bien avec.
Peut-être que la schizophrénie m'a rendu marginal comme je l'aurais souhaité. Je sais pas.
Tu peux voir ce que je ne peux pas voir. Tu ressens ce que je ne ressens plus. Tu es une part de moi-même que j'ai garée en chemin. Maintenant tu es loin, maintenant tu es loin. Tu peux dire ce que j'exprime jamais, tu sais ce que j'ai mis du temps à oublier. Tu es dans un de mes rêves que j'ai garé en chemin. Maintenant tu es loin, maintenant tu es loin. Tu peux voir ce que je ne peux pas voir, tu ressens ce que je ne ressens plus. Tu es une part de moi-même que j'ai garée en chemin. Maintenant tu es loin, maintenant tu es loin. Tu peux dire ce que je n'exprime jamais, tu sais ce que j'ai mis du temps à oublier. Tu es dans un de mes rêves que j'ai garé en chemin.
Maintenant tu es loin, maintenant tu es loin. Plus je vis, plus tu disparais. Moi je me souviens de ce que tu as été. Et tu habites dans mes nuits. Ce n'est plus qu'une question de temps pour rejoindre l'océan, pour rejoindre l'océan. Plus je vis et plus tu disparais, moins je me souviens de ce que tu as été. Et tu habites dans mes nuits, ce n'est plus qu'une question de temps pour rejoindre le néant, pour rejoindre le néant.
Merci beaucoup pour ces réactions.
C'était... pour cette très belle écoute.
Oui, c'est vrai qu'elle était parfaite. C'était le premier épisode « Je tombe dans le vide » pendant que les psychoses. Avec Laure, on tenait vraiment à vous remercier parce que ce premier épisode, on l'a trouvé très touchant. Et surtout, nous, on considère que c'est très important d'être capable de témoigner comme ça et que c'est, oui, presque de l'ordre de l'utilité publique, notamment pour les personnes qui sont très éloignées de ces sujets-là. On va continuer notre exploration des coulisses. Et justement, je me tourne vers vous parce que ce podcast, c'est avant tout des témoignages, on l'a compris, et on imagine que ce n'est pas évident, justement, on en parlait d'ailleurs plus tôt, de convaincre des gens de parler de leur maladie. Donc comment vous avez réussi justement à convaincre les personnes qu'on entendra par la suite, parce que là, c'était l'épisode 1, donc c'était les citoyens, mais par la suite, ce sera d'autres personnes. Comment vous avez réussi à les convaincre de parler d'eux?
Le premier sentiment, c'est toujours l'opiniâtreté et la longueur et le fait de toujours vouloir réussir. Au départ, ça paraissait peut-être ambitieux. On ne savait pas du tout qu'on allait réussir à boucler 10 épisodes. Mais au départ, on a lancé un peu du SOS dans tous les sens. Au départ, ça répondait très peu. Un petit peu plus après et beaucoup plus après. Donc, une fois qu'on a été pris dans le mouvement, on l'a suivi, quoi.
Laurent ?
Non, bah on a rédigé des appels à témoins en fait qu'on a tous mis dans les yeux dans les lieux qu'on fréquentait en fait. Je pense notamment à l'autre groupe d'entraide mutuelle qui s'appelle Initiative. J'en ai mis au Clubhouse aussi, je crois. Pour ceux qui connaissent, c'est aussi un lieu pour les personnes souffrant de troubles psychiques, en fait. Et puis, en en parlant autour de nous. Quoi.
Par exemple, on a dû se déplacer à Cholet pour interviewer 3 personnes. 3 personnes sont venues de Savenay pour être interviewées. D'autres personnes sont venues des Sorinières, d'autres de Rezé. Vous voyez, c'est assez varié du point de vue des localités, quoi.
Donc finalement, c'est un appel qui a trouvé un écho. C'est-à-dire oui. Que finalement, les gens, ils ont lu votre appel et... ça a marché tout de suite. Il n'y a pas eu besoin de.
On n'a convaincu personne. Voilà. On a juste envoyé l'appel et les gens nous ont répondu.
Mais le plus difficile au départ, c'était par exemple quand on formulait les questions. On mettait des textes. Quelles questions on peut poser? Au bout de 3-4 interviews, après, on posait plus tellement de questions. On rebondissait sur ce que disait la personne parce que les questions, on les connaissait plus ou moins, quoi.
Ben c'est justement là-dessus que j'allais rebondir parce qu'on sent qu'à l'écoute, ben vous verrez aussi avec le deuxième épisode, on sent que c'est très subtil et que ce qui est visé, c'est vraiment la maladie aussi, d'essayer de faire une cartographie avec plusieurs personnes d'une maladie et pas forcément d'exposer des intimités. D'ailleurs, ça s'entend dans le premier épisode où vous parlez, je ne veux pas me développer personnellement, mais me soigner collectivement. Je trouve que c'est assez représentatif de la démarche, en tout cas, moi, je trouve que vous avez eue. Et donc, je me demandais justement ce travail d'interview, comment il avait évolué au fur et à mesure. Tu le décris un petit peu, toi, Pascal, mais peut-être les autres, vous souhaitez rebondir aussi, les filles.
Je dirais, par exemple.
À chaque fois, c'était différent, quoi. Ça dépendait de la personne qu'on interviewait. Et on a peut-être pris un peu d'assurance. Au fil des interviews, ce qui était important, c'était surtout d'écouter, quoi. La plupart du temps, on posait très peu de questions et les gens parlaient beaucoup d'eux-mêmes. Et puis après, on a laissé faire Julie, qui a monté, qui a choisi donc des parties de ses interviews et qui les a montées. Et puis,
chaque interview, vous voyez, dure à peu près 45 minutes, une heure. Hein. Minutes. Et il a été retenu à peu près 20 minutes. Pour 3 personnes, c'est-à-dire à peu près 7-8 minutes. Donc on supprime, vous voyez, 45 minutes pour rester à 7 minutes pour chaque personne. Donc c'est assez... on a gardé, comme on dit à l'école, la substantifique moelle.
D'ailleurs, on s'excuse pour les gens qui ont dit des choses et qui se sont peut-être pas retrouvés dans la version finale, quoi. Enfin, qu'on n'a pas retrouvé tout ce qu'ils ont dit dans la version finale, quoi.
Ils vont le découvrir peut-être, les filles. Vous voulez prendre la parole, dire quelque chose, et Emmanuel?
Moi, je voulais bien rajouter quelque chose parce que il y a quand même un sujet qui a été où ça a été assez difficile de trouver des gens, et c'est intéressant de le dire parce que c'est assez révélateur. C'est le sujet sur l'amour et la sexualité, et c'est le seul en fait où on a vraiment hésité à se dire ah mais est-ce qu'on on avait juste un témoignage, c'est ça, et d'une femme, et donc on a vraiment eu l'hésitation de se dire bah est-ce qu'on fait quelque chose avec juste ce témoignage ou est-ce qu'on relance un appel à témoins, et c'était un peu cet été, donc on était un petit peu aussi dans les derniers moments de la série. Et en fait, on a décidé de relancer un appel à témoins. Et c'est super parce qu'une personne a répondu. Et donc, on a pu avoir un autre témoignage. Et ça a vraiment apporté quelque chose aussi. Ça peut ouvrir ce sujet. Mais ça dit aussi la difficulté. C'est difficile de témoigner. Mais il y a en plus des sujets qui sont encore plus où c'est moins évident de témoigner. Donc, c'était intéressant d'avoir ce manque. C'est un peu plus tabou, ouais, on peut dire ça.
Moi, j'ai un souvenir très drôle. On a interviewé une personne sur le thème des crises. Et je lui dis, est-ce que tu as connu des crises? Il me répond, oui, la crise pétrolière de 1974.
Julie, tu voulais dire quelques mots?
Et quand même, on peut dire quand même que, parce que là, ça a l'air hyper simple. Bon, c'était quand même assez simple, mais que quand même, on a préparé tous les entretiens en amont. On a passé beaucoup de temps de réunion à préparer chaque entretien pour chaque atelier. En fonction de vous aussi, votre vécu, ce que vous savez de tout ça, enfin voilà, de comment aussi on construit un entretien avec quelqu'un. Mais c'est vrai, carrément, qu'au bout d'un moment, on n'avait plus besoin de ces feuilles, et que tu as carrément raison que c'est écouter, en fait, qui était primordial.
Au départ, on se réunissait tous les 15 jours, à peu près 2 heures. Voyez ce que ça donne depuis le mois de septembre. Et après, là, depuis 2 mois, on se réunit toutes les semaines pour préparer ce soir, vous voyez.
Les journées entières.
Ils ne se supportent plus.
Et tout à l'heure, 2 heures dans le hall en haut, là. Vous voyez, c'est assez dense, en fin de compte. Hein. Tout n'est pas improvisé. Hein.
Rien n'est improvisé.
Et tiens, Laurent, prends le micro.
Et en plus, on nous avait enfermés, on n'avait pas le droit de sortir.
C'est bien, ce que je voulais vous demander, de raconter des anecdotes, mais ça vient tout seul.
En fait, aussi, on s'est rendu compte au fur et à mesure quand même du montage et tout, que c'était assez lourd quand même, tout ça, que on rigole pas beaucoup. On avait besoin aussi entre nous quand même de rigoler pour pouvoir... Et ces ateliers d'écriture dont tu parlais, ça permettait ça aussi, de jouer sur les jeux de mots, de jouer avec la langue, de jouer avec l'humour, etc., pour donner une petite touche un petit peu plus légère, mais on pouvait pas faire beaucoup plus, mais... Mais voilà, parce que forcément, c'est quand même intense de réécouter aussi tous ces témoignages, de les monter, pendant un an, tout ça.
Et puis, Par exemple, pour présenter les thèmes, il fallait trouver des paroles qui marquent. Par exemple, moi, j'ai trouvé une parole pour la famille fait face ou s'efface, vous voyez. Ça rime un petit peu, fait face ou s'efface.
Bravo. Et il y en a plein d'autres.
Il y en a plein d'autres. 10. Mais Aline en a trouvé beaucoup aussi. Hein.
Mais ça me fait rebondir, ça fait penser que moi, ce qui m'a pas mal touchée dans ce projet aussi, c'était le côté collectif, mais aussi le côté assez créatif quelque part, et de pouvoir faire quelque chose d'autre aussi, de peut-être ces sujets un peu plus difficiles.
Après, chacun a écrit un ou plusieurs textes qui permettent d'introduire les épisodes, qui sont une introduction plus ou moins poético-socio-psycho. Mais avec la patte de chacun, chacune d'entre vous. Certains n'ont pas écrit de texte. C'était aussi assez libre pour que tout le monde s'y retrouve dans la façon dont on s'investit. Pascal, par exemple, toi, tu le dis, tu as fait beaucoup d'entretiens. Tu as été moins sur les textes, mais il y en a d'autres qui ont fait plus de textes, moins d'entretiens. On pouvait aussi trouver sa place différemment. Emmanuel. Et la musique, on va en reparler tout à l'heure.
La musique, on en parle après.
On reparle de la musique, on fait une spéciale.
Le deuxième épisode, de l'autre épisode, qui ne sera pas le deuxième, mais bien le dixième, hein, vous avez compris. En tout cas, on voit bien que la question de la fatigue est en creux dans l'épisode 1 et qui va revenir par la suite. Je vous propose du coup qu'on passe à l'écoute du deuxième épisode, qui est en fait le dixième épisode et qui s'appelle Les poètes poétisent. Et Julie, je te laisse la parole pour dire quelques mots avant la diffusion.
Oui, alors c'est le dernier épisode, donc du coup on a voulu terminer sur une note positive. C'est sur le rétablissement, du coup le thème. Et en fait, dans cet épisode-là, on retrouve vraiment toutes les personnes qui ont témoigné, donc les 22 personnes qui ont témoigné durant tous les podcasts. Et faut bien noter qu'il y a 8 épisodes quand même entre le premier qu'on vient d'écouter et celui qu'on va écouter là. Et donc voilà, c'est le final. Et on a aussi participé à une chorale, du coup, avec des gens qui sont venus chanter avec nous, du coup, de différentes chorales. Donc c'est une expérience très chouette que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, le dernier épisode, le rétablissement.
Le thème, c'est le rétablissement. Et je rappelle le titre, c'est Les poètes poétisent. Et on écoute tout de suite. Bonne écoute.
Une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit.
On reconnaît une société à la façon dont on traite les fous.
Pendant que les psychoses...
Les poètes poétisent.
Il n'y a pas la folie d'un côté, puis l'intelligence de l'autre. Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. C'est une somme de folie plus grave.
Une série du GEM, le nouveau cap, groupe d'entraide mutuelle.
Dernier épisode. Des médicaments vraiment ras-le-bol.
Ras-le-bol de la stigmatisation vis-à-vis des souffrances psychiques.
On nous dit le bonheur, à toute heure, à tout va.
Danse, danse, avec les hauts, les bas.
Comme rétabli de tous ces événements, tous ensemble, encore des étoiles dans les yeux où se lisent les folies déséquilibrées.
La vie dans les creux des mains.
Partage ta forme psychique avec les névrosés ordinaires pour saluer la puissance vivante.
Une pulsion de vie qui porte, emporte au fil des saisons.
La nature faite de mille couleurs.
La liberté, ma liberté. Mais sans la tienne, elle ne vaut rien.
Alors, s'entraider.
La joie, de nouveau, elle m'avait manqué. Reste avec moi, protège-moi.
La société nous entoure de sens dont nous avons perdu l'essence.
Du carburant, d'espoir, pour continuer à avancer, tout droit et en zigzag. Je ne trouve plus mon chemin, mais ensemble nous irons plus loin.
La dernière hospice, elle date de 2018 et je touche du bois, mais je pense que c'était la dernière.
Je suis stabilisée depuis 8 ans. Le fait d'être rétablie, c'est encourageant aussi, je pense. Pour tous les gens qui m'entourent et pour moi aussi. J'ai plus de symptômes de maladie quasiment, donc c'est plutôt cool. Enfin voilà, j'arrive à avancer comme ça.
Je vous dis rétablissant parce que c'est le sujet. Moi, aujourd'hui, c'est ma vie.
Maintenant, je sais comment me ressourcer quand ça va pas. Voilà, j'ai trouvé des combines aussi. Quand ça va pas et que ça commence à monter, je vais dans mon jardin, je mets les mains dans la terre. Je vais toucher mes fleurs, je vais planter des trucs. Et en l'espace de 30 minutes, la pression redescend. Alors, je ne sais pas si je conseille le jardinage à tout le monde, mais pour moi, ça a marché, clairement. Et puis, ne plus être en ville. Alors ça, je pense que pour beaucoup, ça peut jouer. Parce que quand on est dans ce que j'appelle les hyperactivités cérébrales, on a besoin de calme, en fait. Et être dans tout ça, ça aide pas. Un cadre de vie stable, c'est le plus important, en fait. Alors ça, c'est facile à dire, parce que les événements de vie, on ne les choisit pas, on ne les prévoit pas. Mais pour moi, en plus de ce médicament, ce régulateur de l'humeur qu'a été le lithium, de m'entourer d'amis vrais et sincères, ça a été primordial. D'enlever les personnes toxiques de ma vie, qu'elles soient amicales, mais surtout familiales, ça a été fait aussi. Il y a eu ma fille aussi, hein, j'ai une petite fille de 11 ans, qui m'a aidée à me battre, en fait, et de me dire que la vie valait la peine d'être vécue. Et puis enfin, la rencontre amoureuse, qui est toute récente, mais ma stabilisation, elle correspond aussi à ce moment-là.
Posez-vous la question, qu'est-ce qui est le meilleur pour votre santé, qu'est-ce qui est le meilleur pour vous? Et posez-vous aussi la question, est-ce que les gens qui vous font des remarques sont finalement des personnes qui méritent votre affection et d'avoir des relations avec vous? Parce que quand on aime vraiment une personne, on la respecte et on l'accepte telle qu'elle est et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit selon nos propres critères, en fait.
J'ai eu l'occasion d'être extrêmement étonnée par plein de comportements, mais dans le bon sens, quoi. Des gens très généreux. Voilà, des personnes très généreuses. Et à l'écoute, je me dis que oui, on est toujours surpris, en fait. On est toujours surpris par l'autre, aussi dans le bon sens, ça c'est sûr. Et
une fois qu'on a informé ses proches de comment fonctionne la maladie, comment vous pouvez m'aider pour que ça aille mieux. Ça, c'est la deuxième chose qui peut faire que voilà, l'avenir va être plus plaisant. Alors le psychiatre, trouvez le bon, enfin.
Choisissez un bon psy, une personne à qui vous entendez bien, avec qui ça passe bien. Moi, j'ai changé et ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus agréable. On se dit les choses et voilà.
Si le feeling ne passe pas avec le psychiatre, de toute façon, ça ne fonctionne pas. J'ai eu un psychiatre avec lequel ça ne passait pas et c'était réciproque en plus. Elle m'infantilisait un peu et ça m'agaçait énormément parce que j'étais en capacité de parler de ma maladie correctement.
Et en fait, je me suis sentie en sécurité là-bas. Parce que justement, pour la première fois, les crises, elles étaient accueillies sans qu'on me juge. Parce que les psychiatres, tout de suite, ils bloquaient, en fait, genre, bon, mets fin à la séance, ou genre, bah, vous n'avez pas à taper sur la table, ou ce genre de truc-là, en fait, parce que ça, c'était pas permis, quoi. Alors que dans le bureau de la psychanalyste, la première fois que j'ai eu une crise, elle s'est rapprochée de moi, elle m'a pris la main. Et elle a été hyper maternante, et ça atténuait tout de suite les choses. Et il n'y a que avec elle, en fait, que ça a été accueilli comme ça. Avec les psychiatres, ça ne marche pas pareil. Là, le psychiatre que je vois, ben, il me donne les médicaments, on parle de ça, mais c'est pas avec lui que je vais traiter vraiment, vraiment ma vie, quoi.
Selon chacun, ça peut être différent aussi l'approche. Par contre, il faut vraiment garder une vigilance forte sur ce qui peut se passer dans les institutions. Enfin, déjà, savoir ce qui existe, quoi. Un psychiatre, c'est pas comme une psychologue. Et puis toutes les alternatives. Je pense qu'il y a des trucs à trouver, là. C'est pas possible de dire que vous souffrez d'un trouble bipolaire, mais ne vous identifiez pas à votre maladie. OK, mais en fait, on fait quoi?
Je crois qu'un des plus gros risques est de s'identifier à une maladie, puisque comment en sortir si ça devient une partie de notre identité? Donc moi, je fais toujours attention à dire « je souffre de troubles bipolaires ».« Je souffrais de troubles bipolaires ». Et je dis pas que ça marche pour tout le monde, hein. Mais mon expérience m'a fait réaliser que, OK, ça c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut travailler sur ce qui se passe tous les jours en réel. C'est nos émotions qu'on a beaucoup de mal à... Alors, il y a le mot « gérer » que tout le monde n'aime pas parce qu'il vient de la société de l'entreprise, « gérer ». Enfin, on peut prendre un mot que j'aime bien, « apprivoiser ». Apprivoiser ses émotions.
Donc, verbaliser la colère, ça permet d'éviter d'exploser par des sensations physiques. Toutes les émotions, d'ailleurs, sont physiques. Quand on est triste, quand on est en colère, on ressent des émotions. Et elles sont physiques, dans le corps. C'est pas quelque chose qui se passe dans la tête.
On est souvent coupé, nos émotions. Et c'est d'ailleurs une défense. On ne les vit pas. Moi, j'ai remarqué, je me trouvais presque insensible à plein de choses.
Je devenais colérique, impulsif, j'avais un excès de confiance en moi. Et aujourd'hui, je suis un peu tout l'inverse. J'ai pas encore du travail pour me reconstruire, quoi, mais je pense que je peux devenir quelqu'un de mieux. Vraiment de pouvoir repartir sur des nouvelles bases, en fait, tout simplement. J'ai pas repris mes études, je compte pas les reprendre. Et je suis dans un hôpital de jour. Moi, ça me convient pour le moment, en fait, tant que je sais pas quoi faire. J'y vais 3 fois par semaine. En ce moment, je vis bien ma vie, du coup. Avec ça, disons que ça me permet vraiment d'être assuré dans ce moment de transition, quoi, là, l'hôpital de jour, d'être soutenu, etc.
Il y a les GEM, après il y a les résidents de la DMR, il y a les ESAT. Je me dis, on a une chance incroyable en France d'avoir ça.
Et puis, à titre personnel, avoir un travail et un épanouissement et un cadre de travail adapté au handicap.
Personne d'autre que vous n'a le droit de dire si vous êtes légitime ou pas, en fait. De faire un dossier MDPH, de demander une aide, de dire que vous avez un handicap physique ou psychique. En fait, c'est seulement la personne concernée qui sait ce qu'elle vit de toute façon au quotidien, qui sait qu'elle est légitime de demander une aide si elle estime qu'elle en a besoin.
Les premières fois que je suis arrivée à l'ESAT, je me disais que c'était un combat de tous les jours. Mais vu maintenant, j'ai pu me stabiliser. Je le vois différemment, en fait. De toute façon, quand on travaille, ça nous change la vie. Ça change pas la maladie, mais ça peut aider à accepter la maladie.
Même de rien, avec le rétablissement, j'ai appris à prendre mon temps, à beaucoup m'écouter, à pas me faire violence, etc. Et je pense que c'est une force de savoir faire ça. Et maintenant, ce qui me fait peur, c'est de confronter ça avec le monde du travail, où ça peut être un peu l'opposé, quoi.
Puis là, je travaille du coup à Beaulieu, dans une boutique qui appartient à la DAPEI. Même si c'est pas toujours simple, mais ça me fait du bien d'avoir un cadre, de rencontrer des gens, d'avoir une routine, en fait, aussi.
Ma grand-mère, faut savoir qu'elle a éduqué 3 garçons et qu'elle a travaillé toute sa vie, depuis l'âge de 18 ans. Et quand j'avais 14 ans, elle m'a dit quelque chose qui me restera toujours. Elle m'a dit « Ma petite fille, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais ne sois jamais dépendante financièrement d'un homme. » J'estime que rien que de mener ma vie, de gagner ma vie suffisamment bien, donc contrairement à plein de personnes qui n'y arrivent pas, donc j'estime que je suis une privilégiée. Et ça, pour moi, c'est un bien-être. D'arriver à vivre à peu près normalement. Et j'aimerais aussi faire de la méditation de pleine conscience quotidiennement. Parce que ça aide beaucoup. Ça permet de poser. Et de manière générale, ça améliore le bien-être. Comme le sport, en fait.
Le sport, ça me fait énormément de bien. Ça me permet de me canaliser mes émotions aussi, parce que j'avais un peu de mal avec ça avant.
Je suis assez équilibré, assez stabilisé au quotidien. Parce que je fais pas mal d'activités comme du yoga, de la sophrologie, des choses comme ça. Puis je le fais de manière très régulière. Ça me permet du coup d'être bien, d'être assez équilibré et puis de mener à bien mes projets, quoi.
Par exemple, je vais vous dire, je fais partie de 9 associations, moi. Je dois trier dans la semaine les rendez-vous que je veux faire.
Avec tout ça, avec ces activités, je suis plus sereine. Il y a plus de choses dans mon quotidien, moins d'occasions de se sentir oppressée, angoissée, stressée. Il y a moins besoin des médicaments aussi.
Ce qui m'a pas mal aidée, c'est le militantisme, les mouvements sociaux. Je suis bénévole au planning familial.
Dans mon association, c'est un endroit où je me sens en sécurité et qu'il n'y a pas de jugement, peu importe ce qu'on est et qui on est, avec nos maladies, avec nos souffrances.
J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras.
Le j'aime, ça aide quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. On rencontre tellement de gens. Moi, je me suis fait des amis ici.
Grâce au j'aime, on peut rencontrer des gens. Et puis, il y a sûrement des couples qui se forment.
La question de l'autogestion, elle est assez intéressante, elle est assez présente. Et je trouve ça super de pouvoir aussi vivre ça ici. Et avec un lieu aussi où on s'organise et où il y a moins de soignants. Où il n'y a pas de soignants, pour le coup.
Pour que ça aille encore mieux, je vais au j'aime. Où on fait de la cuisine, ou de l'écriture. On fait un petit peu de musique aussi. Tout ça mis ensemble, ça me permet d'avoir une meilleure estime de moi-même.
J'en fais un petit peu moins. J'ai été président, maintenant il y en a d'autres qui se sont mis. Et c'est très bien. Il faut faire les petites activités, être conscient de ses limites, parce que si nerveusement, il ne faut pas recommencer, il ne faut pas retomber. À chaque fin d'année, je me dis, je ne retourne pas à Saint-Jacques. Il y a d'autres endroits plus rigolos pour faire la fête.
J'aurais pas le j'aime. Dans ma pièce de théâtre hier, j'ai fini par le mot j'aime, le verbe aimer. J'aime J-A-I-M-E et j'aime G-E-M, j'aime soleil. Là, je peux dire j'aime. Je peux dire j'aime à ma femme, je peux dire j'aime ou j'aime.
J'aime le j'aime, exactement.
Maintenant, avec le temps, moi, je suis content, comme je suis conseiller d'administration, d'aider des gens qui ont des problèmes, quoi. Je suis content. Comme moi, j'en ai un peu moins. J'aime bien aider les autres. Surtout ça, c'est pas... J'y vais pas spécialement pour moi, j'y vais surtout pour les autres.
Eh ben moi, le truc positif, c'est quand même la découverte de la paire aidance et les ateliers. Bah, comme ce qui se passe au GEM, j'ai l'impression que ça peut vraiment être une espèce de contre-pouvoir aussi.
La paire aidance, c'est... Alors moi, j'aime beaucoup cette phrase. C'est le fait de transformer son expérience de vie en expertise au service des autres. Comment accompagner les autres en fonction de notre vécu. Je me forme et je lis beaucoup de choses sur la paire aidance pour pouvoir, dans le futur, accompagner au mieux mes pairs, quoi.
J'ai des patients que j'accompagne. On discute. Ils sont souvent juste plus jeunes dans la connaissance de leur maladie. Et donc, j'essaye de bien les écouter. Parce que je suis qu'un père, P-A-I-R, ils me disent des choses plus facilement. Il n'y a pas de sensation, de ressenti d'une hiérarchie quelle qu'elle soit, ou d'autorité. Moi, j'ai aucune autorité. mais aussi je leur rends mon expérience. Voilà. Et j'espère que ça peut les aider à évoluer.
J'ai un peu de père aidance au Crézerc du coup. Donc ouais, je suis contente. Ça m'a permis de voir aussi où j'en étais rendue dans mon parcours de soins, moi aussi, je pense, voilà, à travers... et aussi ceux qui souffrent de troubles psychiques, c'est aussi important pour moi.
Moi, je pense que c'est primordial, parce que qui de mieux qu'un bipolaire pour accompagner un autre bipolaire, en fait. On ne remplace pas les médecins, mais pour moi, la père aidance, c'est un maillon de la chaîne de soins à venir, et je pense que c'est un métier qui va se développer en santé mentale. Parce que nos parcours de vie deviennent des expertises en fait au service des autres et je trouve que c'est super important à mettre en valeur.
Quelle image on a des troubles psychiques? Il faut aussi déstigmatiser tout ça. Il y a le club AS qui fait ça, il y a les jeunes qui font ça. Et ça commence à changer, il y a plein de démarches. Moi, je suis au PTSM, le projet territorial sur la santé mentale. Ça parle de tout le secteur psychiatrique, tous les problèmes qu'il y a. C'est le parent pauvre de l'hôpital, la psychiatrie. On fait le travail du gouvernement, quoi. Enfin, c'est la honte.
Et aussi, il y a cette envie de politiser la psychiatrie.
Je trouve qu'on est beaucoup plus sensibilisé aux maladies psychiques, même si on n'est toujours pas assez sensibilisé, c'est sûr. Je milite aussi un peu pour faire changer ce regard-là. Et je trouve que c'est aussi un combat que j'ai aussi, quelque part, pour moi aussi personnel, parce que quand j'ai été jugée dans mon enfance, ça n'a pas toujours été facile, et je me dis que j'aimerais pas que quelqu'un d'autre vive cette situation-là, en fait.
Un projet que j'ai quand même pour l'avenir, ça serait de créer un petit studio à côté d'où on va habiter, pour accueillir en répit, en fait, que ce soit des enfants ou des adultes en situation de handicap, pour passer du temps ensemble et aider les autres aussi, proposer de souffler un bon coup, de faire des trucs ensemble. Et je pense que ça pourrait être cool à faire. J'aimerais bien faire ça.
Même si ça a été dur à des moments, si ça... j'aime la vie que j'ai menée quand même. J'ai des bons souvenirs, j'ai des bonnes choses qui se sont passées dans ma vie. Et justement, c'est le positif qui m'a remonté vers le haut. Et même quand j'étais descendue au plus bas, même si j'avais personne pour me le relever, les médecins, les infirmières, ils étaient incroyablement surpris de voir à quel point je pouvais me remettre vite et toute seule. Et c'était ma force, c'était ma force. Et malgré tout, même si demain je retombe, je sais que j'arriverai à me relever.
On sous-estime le potentiel humain qui est très grand. La personne, il ne faut pas la regarder au jour J. Il faut la regarder au jour J plus J puissance 30.
Il faut y croire et il faut se battre.
Ok, c'est une maladie, mais c'est aussi, ça peut être rétabli. Donc moi, je trouve que... Moi, ça a été qu'un passage et maintenant, j'en suis sortie. Donc maintenant, je me considère plus comme une personne... normal, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, mais...
Personnellement, on n'a jamais communiqué sur la durée de ma maladie, si c'était guérissable ou pas. Je me demande même s'ils savent exactement où ils vont par rapport à ces maladies. Très honnêtement, j'ai l'impression qu'ils ne le savent pas. Je pars du principe que c'est à vie, mais je ne perds pas espoir de pouvoir réduire le traitement, parce que c'est quand même lourd au quotidien.
Je dirais stabilisé, pas guéri. Parce qu'on guérit d'un rhume, mais on ne guérit pas de maladie psychique pour moi.
Le dernier point qui, aujourd'hui, me permet encore plus de dire que je suis rétabli, c'est que je ne prends plus de traitement en accord total avec mon psychiatre. On a commencé à diminuer doucement, parce que le corps avait été habitué à deux molécules de thymorégulateurs, dont le lithium, pendant plus de 15 ans. Et depuis le début de l'année, je n'ai plus aucun traitement. Mais pour moi, j'ai un sacré traitement. Mon traitement, c'est la méditation, l'abstinence, la marche, l'écriture. Ça, cette hygiène de vie ou hygiène du bonheur, je considère aujourd'hui, et je fais un choix peut-être un peu dangereux, que c'est aussi puissant, voire même plus puissant que les molécules qui me soutenaient avant. Mais je ne suis pas contre ces molécules. Je ne dis pas aux gens, arrêtez votre traitement, vous irez bien. Non, moi je vois tout le chemin que j'ai parcouru, tout ce que j'ai mis en place, Et un jour, j'ai dit à mon psychiatre, bon, on pourrait tenter. Voilà, c'est on. Déjà, je l'inclus dans le truc. Il m'a répondu, vous m'emmerdez. Mais je ne peux pas vous dire non. Parce que quand je vois tout ce que vous faites pour que ça aille bien, ok, on va essayer.
Je dirais qu'il faut croire en soi et puis surtout s'écouter. Bien apprendre à se connaître. Il n'y a pas mieux placé que soi, en fait, pour savoir ce dont on a besoin.
Et c'est pas parce qu'on a un trouble psychique qu'on doit se contenter de moins en tant qu'être humain et qu'on doit quémander du respect.
Je me vois bien avec des plantes, un piano et voilà, faire ma petite vie.
Le jour où je vais quitter cette terre, si je n'ai pas fait de crise, on pourrait peut-être dire, il était guéri. On pourrait.
Tout bas, que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire et ne s'effare. Regarde en dessous de la nuit, il y a toujours le jour qui pose ses lumières sur un coin de la terre. Tu vois que l'on tout bas, que la joie est toujours à deux pas. Je te dis prends patience.
C'était Pendant que les psychoses, une série du GEM Le Nouveau Cap. Préparation, écriture, entretien et prise de son, Emmanuel H, Laurent A, Julie L, Pascal A, Morgane et Sacha. Accompagnement et montage, Julie A. La musique a été composée et interprétée par Malo et Olivier Noël. L'adaptation du Monde s'est dédoublé de Clara Isé a été interprétée par la chorale de 4 heures. Un immense merci à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner, à toutes celles qui ont participé à cette série de près ou de loin, à Jet FM, à la Fondation de France, et merci à tous les GEM.
Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses
phares. C'était donc le 10e et dernier épisode, les poètes poétises de cette série podcast Pendant que les psychoses, qui explore un peu comme un effet miroir, non pas les basculements et les déchirements dont on parlait plus tôt, mais les solutions ou l'après, et qui comporte aussi une dimension politique, voire militante, très intéressante. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont envie de rebondir là-dessus.
Je dirais que là, en fin de compte, on passe du basculement à l'établissement, mais une demi-heure. Et pourtant, vous voyez, en réalité, c'est beaucoup plus long.
C'est très bien dit. Juste avant de continuer, moi, j'ai une petite question par rapport au titre que je trouve très beau et j'aimerais savoir comment il vous est venu, les poètes poétisent.
C'est toi, Laurent, qui l'a trouvé. Ouais.
Tu veux bien prendre le micro?
Je crois que c'est moi qui l'ai trouvé, en fait. Mais pour la petite histoire, pendant que les psychoses, le jeu de mots, en fait, je l'avais entendu il y a une vingtaine d'années dans une émission de Laurent Ruquier à l'époque. Et ça m'avait marqué, en fait. Et quand le temps est venu de trouver un nom à cette émission, en fait, je me suis rappelé de cette blague de Laurent Ruquier. J'ai proposé, et pendant ce temps-là, les psychoses, qui est devenu pendant ce temps, les psychoses. Pendant que les psychoses, pardon.
Alors, ma question était surtout sur le titre de l'épisode en question, mais j'avais aussi
les poètes poétisent, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est-à-dire qu'il y a une telle émulation quand on se met à réfléchir ensemble que les jeux de mots et tout ça, ça vient tout seul, quoi. Ça, il n'y a pas besoin de se creuser la tête, en fait.
Il y a des passages qui étaient assez lus par tout le monde, c'était des cadavesquis, hein. C'était des phrases qui rebondissaient et qui rebondissaient.
Donc, oui, alors attends, juste, tu parles là, toi, tu parles du texte, le texte qui arrive juste après le générique.
Ouais, ouais.
Voilà, c'est issu d'un cadavre exquis. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un atelier, un jeu d'écriture. Voilà, qu'on a fait tous ensemble, puisqu'on voulait que ce dernier texte il soit fait ensemble, justement, puisque les autres étaient faits individuellement. Donc, comme c'était le dernier, c'était vraiment un épisode choral, comme on disait, à tous les sens. Et je reviens juste par rapport au titre, c'est aussi ce qu'on voulait, c'était vu que le titre global c'était pendant que les psychoses, c'est trois petits points, et l'idée on voulait que la phrase elle soit continue à chaque fois, donc pendant que les psychoses je tombe dans le vide, pendant que les psychoses la famille s'efface ou fait face, et pendant que les psychoses, les poètes poétisent pour aussi donner une dimension, enfin je sais pas, plus joyeuse, plus poétique, plus...
Oui, c'est ça, on voit qu'il y a la dimension de l'invention. Parce que dans l'épisode, c'est peut-être venu aussi comme ça, finalement, vous inventez chacun quelque chose, une solution intime, face à un réel qui peut être assez costaud au départ.
On a beaucoup cherché. Hein.
Pour revenir sur les jeux de mots qu'on a pu faire dans les... Il faut savoir que je crois que le premier bouquin écrit par Freud, en fait, s'appelait... Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient. Donc voilà, on a peut-être des inconscients très, très développés. Très...
Et pour rappel, c'est une série documentaire constituée de 10 épisodes et tout cela a été réalisé en un an. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la post-production, ce qu'on appelle la post-production, donc la façon dont ça a été fait, le montage, le dérochage, même si vous nous avez déjà donné quelques éléments? Et la musique, oui, tout à fait.
Julie va pouvoir vous en parler, parce que c'est elle qui a tout monté.
alors oui, le montage, c'est un moment qui est assez, qui peut être assez fastidieux. Alors à se retrouver à 8 devant un ordi, ça aurait été compliqué. Et puis, moi j'ai l'aisance, voilà, c'est mon métier. Donc du coup, j'ai monté moi seule les épisodes, mais avec, s'ils souhaitaient, enfin voilà, leurs avis, leurs conseils, leurs suggestions. Parce que tous les entretiens ont été réécoutés par tout le monde, par contre, voilà. Et puis à chaque fois, on réécoutait. Moi, je faisais un pré-montage, on réécoutait tous ensemble pour que voilà, ils me disent s'ils étaient d'accord, s'il y avait des trucs qu'ils trouvaient lents, trop rapides. Ou qui servait à rien, voilà. Et après on a finalisé ensemble et donc la musique là est venue et a eu un grand rôle. Et donc on tenait quand même vraiment à vous parler de la musique puisqu'on a eu la chance d'avoir deux personnes qui ont composé la musique pour la série. Déjà il y a Olivier qui est là-bas. Si tu peux prendre un petit micro, si on peut lui passer un micro et t'approcher un peu. Olivier, en fait vous l'avez. Bon, on peut t'applaudir carrément.
Merci, très bien.
Olivier, en fait, on t'a entendu déjà tout à l'heure dans l'extrait de Citoyen. C'est toi qui composais déjà une musique à la toute fin de l'extrait. Toi, tu es quelqu'un de la première heure de Citoyen. Tu es là depuis 10 ans. Mais par contre, tu n'as pas souhaité participer à ce projet en tant que membre du groupe. Mais par contre, on t'a quand même relié puisque c'est toi qui as composé toutes les parties à la guitare.
Oui, j'ai eu cette chance-là d'être choisi pour les
chansons. Parmi un long casting. Hein.
Ah oui, un très long casting. J'étais un peu quand même. Non, c'était vraiment, je suis très content d'avoir participé à ce projet, très fier. Et merci d'avoir choisi mes chansons. Et voilà, c'est trop bien, quoi. C'est cool.
En fait, en gros, on t'a passé commande. T'as dit, voilà, est-ce que tu veux bien composer des morceaux? Tu nous en as composé, mais plein. Au moins une dizaine. On en a sélectionné 5 qu'on entend donc à la fin de 5 des épisodes. Et on a même été les enregistrer.
À JTFM, ouais, c'était génial. Il y avait un petit micro pour la guitare, un micro pour la voix. Il y avait Henri qui était là, je crois. Et ça durait 1h30 avec L'Oréal de Luxe.
Ah oui, je passais à côté.
C'était super, j'ai adoré.
Voilà, pour avoir aussi un beau son propre pour ce que vous avez entendu à la fin. Donc on a fait aussi ce travail-là. Donc merci beaucoup parce que en plus, les textes, ils ont vraiment un lien avec ces épisodes.
Merci à vous. Franchement, merci à vous aussi. Merci.
Et ils ajoutent vraiment une super touche. Donc, merci beaucoup, Olivier. Et il y a eu Malo. Malo qu'on a rencontré, qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a rencontré grâce à cette série. Et en fait, quand on t'a rencontré, tu nous as dit que tu composais.
Ouais. Ouais, bah moi du coup, je commençais à composer il y a un an et demi en fait, après un épisode psychotique. Donc ça a été vraiment un refuge. Je fais ça dans ma chambre de manière très artisanale. Donc voilà, plutôt sur synthétiseur, c'est de la musique plutôt électronique. Voilà. Et il y a toute la partie écriture aussi, qui a été aussi, je pense, un défouloir de plein de choses. Et qui m'a aidé à avancer, à traverser tout ça. Et, ouais. Donc je suis heureux que ça ait pu servir dans ce podcast.
Voilà, en fait, vu que tu nous as dit que tu composais, on t'a demandé est-ce que tu peux nous faire écouter ce que tu fais. Et puis on a trouvé ça super et on s'est dit on va les utiliser. Donc toutes les... là, il y a quelques virgules sonores qu'on entend. Là, la musique électronique, c'est les boucles de tes morceaux. Et donc ça, on les utilise pareil, un certain nombre de morceaux quand même qu'on utilise tout au long des épisodes. Et pareil, il y a quatre épisodes où on entend ton morceau et donc on découvre ton écriture aussi et tout, voilà, tout ce que t'as composé.
Ouais.
Et on est super... ça ajoute...
Je suis content que ça serve.
On est super... en tout cas, ça rajoute vraiment... Enfin, ces touches-là, il aurait manqué quelque chose sans ça. Et en plus, on est hyper content que ce soit les gens qui... Enfin, voilà, on aurait... On voulait pas trop que ce soit aussi des personnes professionnelles dont c'est le métier, mais que ce soit aussi des personnes concernées par le projet et de donner ça, parce qu'en fait, il se fait des trucs super, super partout. Quoi. Donc, merci beaucoup à toi. Tu veux rajouter quelque chose ?
Merci à vous. Non, c'est bon, merci.
Et effectivement, c'est important parce que même si vous avez la dimension artisanale, en fait, le résultat est très professionnel. C'est quand même important de le reconnaître. C'est un travail titanesque.
Aline, on va te redonner la parole parce que je vois que tu as préparé quelques ressources justement à nous partager, comme on le disait tout à l'heure.
Oui, c'est ça, parce que j'ai apporté quelques livres. Là, je suis pas très très. Oui, super. Alors là, c'est un livre qui s'appelle. C'est une artiste qui s'appelle 13. Le livre s'appelle Charge et j'ai découvert ce livre grâce à une amie proche. Et donc, c'est quelqu'un qui a... Du coup, je remercie cette amie de m'avoir fait découvrir ce livre. Et donc, c'est quelqu'un qui a été psychiatrisé pendant 10 ans et qui, justement, est sorti des institutions, tout ça. Et elle dit que ce qui l'a beaucoup aidé, c'est la self-défense en mixité choisie et aussi, je suis en train de me perdre complètement, si quelqu'un veut... je ne sais plus. Mais en tout cas, bref, je recommande à fond ce livre parce qu'il est super intéressant. Et c'est aussi une alternative. Et il y a aussi un autre livre d'Emmanuel Urbu qui est parmi nous ce soir, donc qui s'appelle S'apprivoiser, confession d'un ex-bipolaire. Et voilà, si jamais vous voulez aussi discuter avec lui ce soir, il est disponible. Et ça, c'est un autre bouquin, mais parce que j'avais envie de l'apporter, parce que les lectures, moi, ça, c'est quelque chose d'assez nourrissant. C'est Sortir de l'hétérosexualité de Juliette Drouard, qui questionne, enfin, qui interroge le genre. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé aussi. Et voilà. Et là, il y avait un petit truc de Philippe Catherine, mais c'était juste pour dire c'est super, c'est un journal. Et il a une chanson où il dit qu'il est borderline et il délire un peu là-dessus. C'est assez drôle, enfin, la chanson. Et voilà, c'est tout.
Oui, pour finir. Et juste pour finir, on va juste remercier tous les gens qui ont... On vous parlait d'une chorale. Il y a une chorale qui s'est montée un peu éphémère, instantanée, avec des gens qui savent bien chanter pour chanter cette dernière chanson de fin que vous avez entendue. Et du coup, on voulait remercier Adèle, Anthony, Arthur, Axel, Caroline, Christophe, Diane, Gabriella, Jeanne, Juliette, Louise, Marianne, Renaud et Solange parce qu'ils sont venus sur leur temps libre pour faire cette chanson avec des personnes du groupe qui ont chanté aussi et qui clôturent, qui est une intro et une conclusion à cette série qui nous paraissait très importante. On voulait remercier Élise qui a fait le visuel que vous retrouverez sur le site internet, pareil, qui fait partie du GEM. Et merci à la Fondation de France, parce qu'on a quand même eu de l'argent pour faire tout ça, parce qu'il faut un peu d'argent malgré tout, qui nous a soutenus, à Jet FM qui a été aussi un grand soutien. Et merci à Malo encore, à Olivier, et puis merci évidemment au GEM Le Nouveau Cap qui nous a permis de faire tout ça. Voilà.
Alors, avec Laure, il nous semble que tu avais un appel à faire, que vous aviez un appel à faire. à destination des lycées, des collèges. C'était quelque chose que tu...
Alors oui, bah, juste, tu aimerais bien en fait que...
Bah, écouter la série en entier. Mais on aimerait bien pouvoir se servir de cette série comme un outil aussi pour... Donc, bah, vous l'avez compris, pour déstigmatiser voilà, tous ces troubles psychiques. Et on aimerait faire des rencontres avec différents publics, donc que ce soit dans des lycées, dans des formations de travailleurs sociaux, psychos, etc. Donc si vous connaissez des gens, si vous êtes intéressés, vous pouvez nous inviter, on sera ravis de venir écouter un ou deux épisodes et d'en discuter avec le groupe. On va faire une tournée nationale cette année, voilà, donc on est dispo. Enfin, en tout cas, avec le groupe, on aimerait bien aller plus loin dans ce sens-là. Voilà.
En tout cas,
ah oui.
En tout cas, nous, du côté de Jet, on vous remercie chaleureusement d'avoir produit cette merveilleuse série, de nous avoir aussi donné l'occasion d'en discuter ensemble ce soir et d'écouter ça en avant-première. Et on va se quitter en musique, si je comprends bien, avec une chanson justement de Philippe Catherine qui se nomme Borderline.
Bonne soirée.
Le métro ferme à 1h du mat, le métro ouvre à 6h du mat, Monoprix ouvre à 10h, Monoprix ferme à 20h, les enfants partent à 8h, les enfants reviennent à 16h, le repas commence à 20h, on débarrasse à 20h30, je suis borderline, t'es borderline, il est borderline, nous sommes borderline.